Ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Monde aujourd'hui avec Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil en direct de Washington. Ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité dans le nord du Mali. Libération d'un otage français détenu pendant 3 ans par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Tuerie dans l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à 13 personnes sont déjà mortes cette semaine.
Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, a comparu brièvement aujourd'hui à Abidjan pour confirmer son identité.
Madame Simone Gbagbo est très sereine, elle attend ce procès. Ce que Madame Simone Gbagbo apprécierait, c'est qu'elle puisse rentrer enfin chez elle.
République centrafricaine, le calendrier des élections reste extrêmement serré.
Ici aux États-Unis, les interrogatoires musclés de la CIA contre des militants présumés d'Al-Qaïda, jugés brutaux et inefficaces dans un rapport du Sénat.
Et nous aurons notre page économique, les sports et la musique, mais d'abord, le journal.
Serge Lazarevitch, c'est le nom du dernier otage français dans le monde qui a été libéré près de Kidal, dans le nord malien, après 3 ans de détention aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Idriss Fall.
Serge Lazarevitch a été enlevé d'un hôtel à Ombori au Mali le 24 novembre 2011 en compagnie de Philippe Verdon qui, lui, a été retrouvé mort d'une balle dans la tête en juillet 2013. Le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique avait revendiqué leur enlèvement en les présentant comme des agents du renseignement français. Dans une vidéo diffusée par Acme le 17 novembre, Lazarevitch disait être malade et que sa vie était en danger. Peu après, le président nigérien Mahamadou Issoufou a dit son optimisme quant à sa prochaine libération. D'ailleurs, le président français François Hollande a remercié les autorités du Niger et du Mali pour leur rôle, mais on ne sait rien sur les conditions de la remise en liberté du dernier otage français dans le monde.
Nouveaux assassinats à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Des tueries attribuées aux rebelles ougandais ADF se sont produites entre dimanche soir et lundi, mais le bilan reste flou. Incapable de s'entendre, les sources citées par l'AFP comptent entre 3 et 13 morts parmi les civils. Ces dernières violences sont intervenues alors que ce week-end, déjà dans la nuit de samedi à dimanche, 36 personnes avaient été massacrées dans le territoire de Beni. Ces tueries se multiplient dans la région, puisque depuis début octobre, on compte plus de 250 morts.
Le calendrier des élections en Centrafrique reste extrêmement serré, a déclaré à New York, devant le Conseil de sécurité, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsou, Nathalie Barge.
L'organisation des élections en République centrafricaine d'ici août 2015 est un défi considérable qui demandera une très forte détermination de tous les protagonistes pour y parvenir, a souligné ce matin le responsable des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsou. Tout retard supplémentaire pourrait compromettre la transition, a ajouté M. Ladsou, exhortant les autorités centrafricaines et les partenaires du pays à rester engagés de manière soutenue et coordonnée. Il faudra réviser la loi électorale et améliorer la sécurité à la charge de la MINUSCA, des Européens de l'Euphore RCA et de l'opération Sangaris de la France. Le responsable onusien a d'ailleurs annoncé que la MINUSCA atteindra ce mois de décembre 80% du déploiement de ses troupes, dont le nombre total devrait atteindre 12 000 hommes en janvier. La MINUSCA a également commencé à exercer les pouvoirs spéciaux que lui accordent les résolutions de l'ONU pour appréhender les fauteurs de troubles, indique l'AFP. Depuis son déploiement en septembre dernier, la mission de paix internationale en République centrafricaine a arrêté plus de 200 personnes, y compris des anti-Balaka, qui sont entre les mains de la justice.
Début à Noël du procès de Simone Gbagbo.
L'ex-première dame ivoirienne a comparu brièvement aujourd'hui à Abidjan pour confirmer son identité. Son avocat, Rodrigue Dadjé, explique à VOA Afrique que son procès devrait s'ouvrir d'ici 2 semaines.
C'était une pure audience d'interrogatoire sur son identité. Vérifier que la personne qui est poursuivie aux assises est bien celle qui est en face du président de la cour d'assises.
Est-ce que vous avez une idée de quand débutera le procès sur le fond ?
Dans pas moins de 2 semaines. Il faut un délai minimum de 15 jours entre l'audience d'identification et l'ouverture des assises. Il faut compter peut-être courant 24, 25, 26 décembre. Mme Simone Gbagbo est très sereine. Elle attend ce procès. Franchement, ce que Mme Simone Gbagbo apprécierait, c'est qu'elle puisse rentrer enfin chez elle, pas continuer à rester en captivité. inutilement. Bien sûr, je crains pour ces politiques jouées d'avance, effectivement. C'est mon inquiétude que ce procès ne soit pas biaisé à cause de la pression politique.
Maître Rodrigue Dadjie est joint par Nicolas Pinault.
Mauritanie, plusieurs partis d'opposition ont rejeté la nomination par le pouvoir de l'islamiste Mohamed Ould El Hassen, responsable du parti Tewassoul, à la tête de l'opposition. C'est ce que dit l'agence France-Presse, citant la coalition de l'opposition.
Ebola, deux foyers préoccupants subsistent dans l'ouest de la Sierra Leone et le nord de la Guinée, tel est le constat du docteur David Nabarro, responsable de la lutte contre Ebola pour l'ONU. Il se dit raisonnablement positif au sujet de la lutte contre l'épidémie. Par ailleurs, les autorités sénégalaises appellent à la vigilance et à respecter les mesures de prévention lors du grand pèlerinage jeudi à Touba, ville sainte voisine de la Guinée. Le gouvernement souligne l'importance de se laver les mains, boire une eau saine, consommer des aliments bien nettoyés et éviter les abattages clandestins d'animaux. Dakar précise que le Sénégal n'a pas connu de nouveaux cas confirmés depuis la guérison d'un étudiant guinéen le 10 septembre.
Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a limogé sa vice-présidente Joyce Mujuru et au moins 7 ministres perçus comme ses alliés. Jean-Roger Bion.
Autrefois considérée comme dauphine de Robert Mugabe, Joyce Mujuru avait été déjà évincée de son poste de vice-présidente du parti au pouvoir au cours du congrès de la ZANU-PF la semaine dernière. La première dame, Grace Mugabe, qui l'avait jugée inapte à diriger le pays, a été installée par la suite comme la présidente des femmes du parti. Joyce Mujuru a déclaré à la VOA qu'elle se soumettait à la décision de M. Mugabe.
I am not a fighting character.
Je n'ai pas un caractère de contestataire, je suis une personne disciplinée. Lorsque vous recevez un ordre de votre supérieur, vous l'exécutez.
Joyce Mujuru a toutefois nié les accusations de complot évoquées pour la mettre sur la touche. Elle a assuré qu'elle restera une militante loyale du parti au pouvoir. M. Mugabe, âgé de 90 ans, a rempilé pour 5 nouvelles années à la tête de la ZANU-PF, considéré par de nombreux Zimbabwéens comme un héros de la guerre de libération. Il dirige le Zimbabwe depuis l'indépendance de ce pays de la Grande-Bretagne en 1980.
Afrique du Sud, Desmond Tutu, figure de proue de la lutte contre l'apartheid, âgé de 83 ans, annule tous ses voyages jusqu'à la fin de l'année afin de suivre un nouveau traitement contre son cancer de la prostate avec lequel il vit depuis 15 ans. C'est ce que fait savoir sa fondation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un rapport du Sénat américain publié aujourd'hui qualifie de brutales et d'inefficaces les techniques d'interrogatoire musclées utilisées par la CIA contre des militants présumés d'Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre 2001. On écoute les précisions de Michel Joseph.
Secrètement autorisées par l'administration du président George W. Bush en 2002, ces techniques avaient été utilisées contre une centaine de personnes soupçonnées de liens avec Al-Qaïda. Elles comprenaient notamment la détention des suspects dans des prisons secrètes à l'étranger, la privation de sommeil, le simulacre de noyade ou d'exécution, des gifles et des coups, entre autres. La commission du renseignement du Sénat américain a mené son investigation de 2009 à 2012 et rédigé un rapport de 6000 pages dont une version expurgée a été rendue publique. À aucun moment, les techniques renforcées d'interrogatoire utilisées par la CIA n'ont permis de recueillir des renseignements relatifs à des menaces imminentes, a déclaré la présidente de la commission du renseignement, la sénatrice Dianne Feinstein. Cette dernière a accusé la CIA d'avoir induit le ministère de la Justice et les législateurs en erreur sur l'ampleur réelle de ces pratiques. Le président Barack Obama a fait savoir que ces méthodes sont contraires aux valeurs américaines. Des responsables républicains qualifient de leur côté ce rapport du Sénat de partisan, estimant qu'il s'agit d'une réécriture d'événements historiques.
Al-Qaïda dans la péninsule arabique revendique la responsabilité de deux attentats à la voiture piégée ayant tué 7 soldats aujourd'hui dans le sud du Yémen. L'attaque a visé une base militaire. Un attentat similaire, lundi, dans la même province, avait fait 2 morts. Le Yémen est en proie à des troubles politiques alors que le gouvernement doit faire face à une insurrection chiite et des alliés d'Al-Qaïda.
Le premier ministre irakien souhaite une intensification des frappes aériennes américaines afin de renforcer l'offensive au sol contre les militants de l'État islamique. La demande de Haider al-Abadi intervient alors que le secrétaire à la défense Chuck Hagel effectue une visite surprise à Bagdad. Il y a 4 mois, les États-Unis ont commencé à bombarder les positions des djihadistes en Irak. une campagne qui s'est étendue à la Syrie voisine.
En Ukraine, l'armée nationale et les rebelles pro-russes déposent leurs armes alors qu'ils tentent de relancer le cessez-le-feu conclu en septembre dernier. Les deux camps ont promis de suspendre les hostilités ce mardi dans le cadre de ce qu'ils appellent une journée de silence. Des affrontements épars ont été rapportés, mais dans l'ensemble, la trêve tient. Il y a aussi des projets de négociation, mais sur demande des rebelles, elles n'auront lieu qu'à partir de vendredi, a déclaré le gouvernement ukrainien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et c'est l'heure de la Minute Éco pour tout savoir sur l'actualité économique dans le monde. Et pour en parler avec nous ce soir, Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir Morgane.
On reparle de la loi Dodd-Frank qui oblige les compagnies américaines à assurer la traçabilité des minerais qu'elles utilisent.
Ah oui, ce texte de 2010, aussi appelé loi sur les diamants du sang, a permis une plus grande transparence et d'éviter que l'argent du commerce des minerais ne finance des groupes armés. Hier, c'était la date limite pour faire appel pour les entreprises qui se plaignent de cette loi. En cas de rejet de ces appels par la justice, la transparence serait donc garantie de façon définitive. La loi Dodd-Frank a vraiment changé beaucoup de choses, explique Fidel Bafilemba, chercheur du projet ENAF Project à Goma.
C'est vraiment une date très mémorable, très importante pour la moralité dans le commerce, disons, de minerais provenant de l'Est de la République.
Projet. Voilà, le port d'Abidjan s'étend.
Oui, Yin Yakoubassi et son directeur général a révélé hier que la China Exim Bank a accordé un prêt de 466 milliards de francs CFA pour construire la deuxième terminale pour conteneurs dans le port de la capitale économique ivoirienne. Le port est vital pour l'exportation du cacao.
La compagnie publique aérienne sud-africaine South African Airways au bord de la faillite.
Oui, la compagnie s'est donné 90 jours pour éviter la faillite en comprimant les coûts et remettant à plat le réseau sans aide financière de l'État. Nous sommes en difficulté, a déclaré lors d'un point de presse Nico Bezuidenhout, le directeur général par intérim de cette entreprise publique.
La chute des cours du pétrole fait plonger le budget libyen.
La Banque centrale a averti que le pays allait connaître un grave déficit budgétaire. Selon un communiqué fin novembre, le déficit 2014 atteignait déjà 15 milliards de dollars.
Voilà, c'était la Minute Éco avec Nicolas Pinault. Merci.
Et nous passons tout de suite au sport avec Bagassi Koura. Salut.
Oui, bonsoir Chérubin.
Parlons de la Ligue des champions en Europe.
Oui, dans le groupe A, ce soir, l'Atlético Madrid, vice-champion d'Europe et déjà qualifié, jouera contre la Juventus de Turin, qui n'a besoin que d'un point. L'Olympiakos, qui affronte Malmö, espérera donc une défaite des Italiens. Dans le groupe B, les Reds de Liverpool ont besoin d'un succès face à Bâle. Sans enjeu, le Real Madrid reçoit Ludogorets. Dans le groupe C, Chérubin, Monaco affronte le Saint-Pétersbourg et Benfica est aux prises donc avec le Bayer Leverkusen. Dans le groupe D, Galatasaray affronte Arsenal et Anderlecht en découdra avec Dortmund.
Le Maroc a dit non à la CAN pour cause d'Ebola, mais accueille dès demain le Mondial des clubs.
Et voici le programme de cette compétition. Demain à Rabat, match de barrage entre Auckland de New Zealand et Tétouan du Maroc. Le vainqueur de ce match rencontrera samedi en quart de finale le champion d'Afrique en titre, l'AS Sétif. Autre quart de finale entre Cruz Azul du Mexique et Western Sydney Wanderers d'Australie. Le champion d'Europe, le Real de Madrid, jouera mardi prochain directement en demi-finale. La finale chez Urbain aura lieu le 20 décembre à Marrakech.
Enfin, les résultats de la NBA la nuit dernière.
Oui, les Golden State Warriors ont remporté une 13e victoire consécutive après leur succès chez la lanterne rouge de la conférence Ouest, Minnesota, 102 à 86. À l'Est, Toronto, nos amis canadiens, donc vainqueurs contre Denver après prolongation, 112 à 107, restent en tête. 7e victoire d'affilée de Cleveland qui a dominé les Nets de Brooklyn, 110 à 88, et c'était à New York, hein, devant le Prince William, Chérubin, et Washington, bien sûr, a battu par une victoire très serrée, Boston, 133 à 132.
Oui, c'était après deux prolongations, donc Paul Pierce, on peut dire, a réservé un accueil pas très chaleureux à son ancienne équipe. Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil en votre compagnie pour cette édition du 9 décembre 2014. On enchaîne sur les dossiers du jour. Vous l'avez peut-être entendu dans les nouvelles, le dernier otage français détenu dans le nord du Mali a obtenu sa libération. Il s'agit de Serge Lazarevitch, qui était aux mains du groupe ACMI. Un ancien chef rebelle touareg nigérien, Mohamed Akoté, a été la cheville ouvrière de cette libération. Pour son portrait, Idriss Fall a joint Moussa Aksar, journaliste directeur de l'événement.
Mohamed Akoté, c'est un ancien rebelle touareg qui est un neveu de Manu Dayak, dirigeait le camp de libération du Kémous au moment de la première rébellion armée. Et il a aussi, n'oubliez pas, participé activement à la libération des 5 otages français qui étaient enlevés à Arlitz.
Mais en fait, pourquoi a-t-il autant de facilité?
Oui, vous savez, Akoté, c'est un Ifourasse. C'est une ethnie touareg qui se trouve le long, qui est à cheval entre le Niger, le Mali, et l'Algérie et même la Libye. Donc il a assez de relations avec Iyad Agali et c'est pour cela qu'il a utilisé toutes ces relations pour pouvoir exfiltrer les otages français, notamment ceux d'Arlitz, et aujourd'hui avec la libération de Serge Lazarevitch.
Il avait occupé une fonction de ministre, non, sous le régime de Tanja, non?
Oui, sous le régime de Tanja aussi. N'oubliez pas que Akoté était ministre de l'Environnement avant que Tanja ne fasse son tésorier qui a conduit au coup d'État du général Salou Djoubo. Et aussi, il faut le dire, Akoté est président du conseil d'administration de la mine du Muralène qui n'a pas ouvert et on parle qu'elle sera ouverte dans les prochaines années.
Donc le personnage, comment il est? On dit qu'il est plutôt effacé, n'aime pas être au devant de la scène sous les feux de la rampe.
Oui, c'est un personnage très calme, très discret. C'est un homme souterrain qui utilise ses relations souterraines pour pouvoir, comme ce fut le cas de la libération des otages, il a d'excellentes relations avec tous ses autres frères touareg et on dit que vraiment c'est un bon chef de guerre au moment où il dirigeait le front de libération du Témous, le FLT.
Et les Iforas à l'intérieur des Touaregs, qu'est-ce que ça représente? Je sais qu'Iyad Agali est un Iforas, non?
Oui, Iyad Agali est un Iforas. Bon, vous savez que c'est une question de tribu et les gens se retrouvent entre eux quand il s'agit de tribu, même à l'intérieur de l'ethnie Touareg. Et cette tribu-là, et vous savez que c'est des frères, c'est des parents, les gens se sont mariés entre eux, donc ils ont des relations vraiment très soudées. Mohamed Akoté a utilisé toutes ces ramifications-là pour pouvoir libérer de façon discrète les otages dont on parlait déjà depuis quelques jours. On savait que vraiment les dés sont jetés, Lazarevitch retrouvera les siens avant Noël.
En fait, est-ce qu'on a plus de précisions sur les conditions de sa libération? Est-ce qu'il y a un paiement de rançon ou...
Les sources concordantes parlent de rançon. On en parle ici à Niamey. Aussi, on parle notamment d'un échange avec des terroristes qui se trouvent au Mali pour pouvoir libérer l'ex-otage français.
C'était Moussa Aksar, journaliste directeur de l'événement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, les groupes de défense des droits de l'homme et les législateurs de l'opposition dénoncent un nouveau projet de loi qui fait du terrorisme un crime punissable par la peine de mort. Le gouvernement soutient de son côté que cette mesure est nécessaire pour dissuader toute collaboration avec des groupes militants comme Boko Haram. Voici le reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Timothée Dolangmaye.
Adopté en début de mois, le projet de loi autorise l'application de la peine capitale aux personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme ou d'aide aux terroristes. Pour de nombreux critiques, cette mesure pourrait donner lieu à des violations des droits fondamentaux. Forbi Nchinda, du parti d'opposition Social Democratic Front, estime que la peine capitale est obsolète. Le monde entier s'éloigne de la peine de mort. Maintenant, ils veulent l'utiliser contre des personnes accusées de terrorisme. C'est inacceptable dans le monde entier. Même au Cameroun, je ne pense pas qu'au cours des 20 dernières années, quelqu'un ait été exécuté. La peine capitale était déjà légale au Cameroun pour les cas de trahison ou d'assassinat, mais il n'y a pas eu d'exécution dans le pays depuis 1997, selon Amnesty International. Les adversaires de la nouvelle mesure redoutent surtout son utilisation pour museler toute dissidence politique au Cameroun, dirigée depuis 3 décennies par le président Paul Biya. Parmi eux, dit Richard Tanto de l'ONG Service œcuménique pour la paix.
From every indication, the liberty of individuals to express.
Selon toute indication, la liberté des individus d'exprimer leur frustration face à l'action du gouvernement sera lourdement réprimée et à travers les accusations de crimes contre l'État et l'imposition de la peine de mort. Le Cameroun a une histoire de musellement de l'opposition. En 2013, Transparency International Cameroun a accusé le gouvernement d'utiliser le système de justice pénale pour faire taire ses critiques. Une dizaine d'anciens ministres sont actuellement emprisonnés. Les médias au Cameroun, déjà sous pression, ont également fait état de leur inquiétude. De l'avis du journaliste Ben Collins Niuberiwo, la nouvelle loi sur le terrorisme pourrait être un autre outil pour intimider les détracteurs du gouvernement. Je ne crois pas qu'il parle du terrorisme en l'occurrence. Par exemple, il parle de Boko Haram, qui n'est pas une question camerounaise. Je pense qu'il devrait viser les étrangers qui tentent de s'infiltrer dans notre système en vue de déstabiliser le Cameroun. Les journalistes, eux, n'ont rien à voir ici. Ceux-ci doivent faire leur travail, rendre compte et informer les citoyens, a déclaré le journaliste. Boko Haram est peut-être techniquement un problème étranger, mais le groupe militant nigérian terrorise les villes camerounaises le long de la frontière. Plus inquiétant encore pour les autorités camerounaises, les islamistes nigérians tentent de recruter des jeunes Camerounais pour se battre avec eux.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Aujourd'hui, journée mondiale contre la corruption, l'Afrique est toujours rongée par ce fléau selon l'ONG Transparency International. Selon son rapport sur l'indice de perception de la corruption qui est sorti début décembre, le Mali a amélioré légèrement sa position, mais cet indice est élaboré à partir des opinions d'experts sur la corruption dans le secteur public. L'écrivain malien Doumbi Fakoli est au contraire très critique. Il vient de publier un ouvrage dénonçant la politique du président Ibeka et la corruption du régime.
Il a été plébiscité surtout sur la base des 2 points forts de sa campagne électorale, notamment la lutte drastique contre la corruption qui a atteint un niveau jamais égalé dans ce pays, des milliardaires qui n'ont jamais bénéficié de l'apport d'un donateur, des gens qui, parce qu'ils sont devenus fonctionnaires, d'un jour à l'autre deviennent millionnaires et milliardaires. Donc il avait fait cette promesse-là de lutter de façon drastique contre la corruption. Donc il a déçu tous les Maliens parce qu'il n'a entamé aucune lutte contre la corruption.
Pourtant, Ibeka a encore le soutien de la communauté internationale. Il n'est pas si faible que ça.
Mais la communauté internationale ne fait pas la politique d'un pays. Ce sont les Maliens qui font la politique de leur pays. Ce sont les Maliens qui savent ce qu'ils vivent. La communauté internationale ne sait pas ce que les Maliens vivent. Ceux qui vivent dans leur chair, dans leur honneur, ce sont eux qui le savent, pas la communauté internationale. La communauté internationale, si on va plus loin, on dira tout simplement que c'est dans leur et dans son intérêt que le Mali reste en une situation pareille. La communauté internationale, donc, ne joue aucun rôle pour le Mali. D'ailleurs, la preuve, les dépenses que Ibeka a faites, qui ne sont pas des dépenses qui sont dans le budget, notamment l'achat de son avion à 20 milliards de francs CFA, alors qu'il y a un avion qui est déjà là. Il a accordé un contrat de 69 milliards à un de ses conseillers, donc un délit initié, et tout cela à l'insu du Fonds monétaire international.
L'écrivain malien Doumbi Fakoli.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Parlons cinéma, film du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, Timbuktu raconte le combat des habitants de la ville au 333-5 contre l'occupation djihadiste. Le film avait fait sensation au dernier festival de Cannes, on se le rappelle. Il sort demain sur les écrans français. Notre correspondant Nouakchott, Brahim Dia, a pu rencontrer le réalisateur Abderrahmane Sissako.
Mon objectif, c'était pas de parler du terrorisme, c'est de parler d'une occupation, d'une imposition, d'une vision du monde ou de la religion par des gens dont la plupart, dans le cas de Timbuktu, sont venus d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs que la plupart parlent des langues qui sont un peu étrangères, pas totalement étrangères à Timbuktu, mais ils ont besoin d'interprètes pour communiquer avec la population. On parle souvent du terrorisme quand des gens sont pris en otage parce qu'ils sont européens ou d'autres nationalités. Et on oublie que les premières victimes, en général, ce sont les populations, dont on parle très très peu. Et pour moi, cet aspect était beaucoup plus important que de parler de l'action terroriste classique dont on nous raconte le plus souvent.
Quand on voit le film, on se dit que les premières victimes de ce qu'on appelle le djihadisme fondamentaliste, c'est les musulmans eux-mêmes.
Absolument. Pour moi, c'est ça que le film raconte aussi. Voilà. Et que s'il y a quelqu'un qui est pris en otage, c'est d'abord l'islam qui est pris en otage depuis un certain temps. Et c'est ça qui est terrible pour moi en tant que musulman. Et donc, en tant qu'artiste, je me positionne parce que je ne veux pas que la vision de cette religion soit celle qui est véhiculée le plus souvent dans les sociétés occidentales.
Pourtant, en Mauritanie, comme dans beaucoup de pays musulmans, il existe des jeunes qui ont de la sympathie pour les djihadistes prétendu défenseur de l'islam contre l'ennemi occidental. Pour Sissako, il faut aller à la rencontre de ces jeunes pour les délivrer du fanatisme.
Toutes les extrêmes ont leurs sympathisants et qui sont aussi des gens qui sont dans le désespoir, qui tombent facilement de ce côté-là parce qu'ils n'ont pas eu en face d'eux une écoute de quelque chose. Ils ont basculé un moment et je crois que c'est ça aussi qu'il faut regarder un peu en face, que ceux qui partent de ce côté-là, ce sont des gens qui nous ressemblent, ce sont nos frères, ce sont parfois, rarement, mais ce sont nos sœurs aussi, ce sont nos voisins. Et donc il ne faut pas créer ce fossé terrible qui fait du djihadisme le monstre qu'il faut à tout prix couper la tête. L'acte est barbare, les actions sont barbares, inacceptables, inhumains. Et il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, et qui vont de ce côté-là, parce qu'il y a un horizon qui est complètement bouché.
Le réalisateur du film Timbuktu, Abderrahmane Sissako, au micro de Brahim Dia.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Après le décès brutal de l'artiste sénégalais Demba Diaw ou Rock Malax le mois passé, des sources proches de l'artiste ont écrit sur les réseaux sociaux que le patron du MAC serait décédé d'un cancer qui lui avait été révélé il y a 3 ans. On se souviendra de lui dans Rock Malax. Selon la même source, lorsque Demba Diaw a commencé à se sentir mal, il serait allé voir un médecin à Dakar qui lui aurait signifié qu'il s'agissait juste d'un kyste. Mais la situation ne s'améliorant pas, il s'était rendu à Paris dans un hôpital américain pour un check-up complet. Et c'est là où son cancer a été détecté. Voilà Morgane, ce que nous avons prévu pour ce soir. Demba Diaw dans Rock Mbala, paix à son âme.
Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde.
Et nous avions à la console technique notre ami Micha Dubinsky.
Un grand merci à toute la rédaction. Au micro, Morgane Guiriec.
Et chez Robin Lorsil, bientôt, Roger Muntou à 20h.
Jalalabgalalabgal pangadaral malal jalalafruinafrumawadalal yata. Yamit malakalatakwa ngafalanawa.